Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge pour vous présenter cette édition du 5 juillet 2018. Au Nigeria, des parlementaires du parti au pouvoir ont formé un groupe dissident contre le président Buhari. L'opposition en Guinée équatoriale accueille avec prudence l'annonce d'une amnistie totale pour les prisonniers politiques et opposants. Le Parlement éthiopien a retiré 3 groupes armés de la liste des organisations considérées comme terroristes. Entrée en vigueur à minuit des nouveaux tarifs douaniers des États-Unis sur des produits chinois. Mondial 2018 en Russie, deuxième jour de repos avant les premiers quarts de finale demain avec France-Uruguay et Brésil-Belgique. Au Nigeria, des parlementaires du parti au pouvoir APC ont formé un groupe dissident contre le président Muhammadu Buhari à 8 mois de la présidentielle. Le point avec Raissa Girondin.
Bouba Galadima, ancien allié de M. Buhari, a annoncé hier à Abuja la création du Reform All Progressive Congress. Ce groupe dissident est resté au sein de l'APC, ce qui permet aux élus de garder leur poste. Devant les journalistes, Bouba Galadima a ouvertement accusé le président nigérian de ne pas avoir tenu ses promesses, notamment sur la sécurité et la lutte contre la corruption. Selon lui, la présidence de Buhari est un désastre monumental et son équipe n'a aucune vision. Est inepte et incompétente. Cette annonce fait suite à des mois de querelles intestines au sein du parti au pouvoir. Les présidents des deux chambres, Bukola Saraki et Yakuba Dogara, ont des relations plus que tendues avec le président Buhari, mais n'ont pas annoncé pour l'instant leur ralliement à ce groupe dissident. Le mois dernier, l'Assemblée nationale avait déclaré ne pas hésiter à user de ses pouvoirs constitutionnels si rien n'est fait pour assurer la sécurité et mettre un terme à la montée des conflits qui ont fait plus de 2000 morts depuis le début de l'année. Muhammadu Buhari, 75 ans, avec des ennuis de santé, est candidat à sa propre succession à la présidentielle prévue en février 2019.
4 militaires ougandais et 3 civils ont été tués dans un affrontement entre des patrouilles congolaises et ougandaises sur les eaux du lac Édouard. Une patrouille militaire navale de la RDC a été attaquée ce jeudi matin par un convoi de patrouilleurs ougandais sur les eaux congolaises, selon Donat Kibwana, administrateur du territoire de Beni dans le Nord Kivu. Le navire ougandais a chaviré. Côté congolais, un militaire et un civil ont été blessés, a-t-il ajouté. En Guinée équatoriale, l'opposition a accueilli avec prudence l'annonce par le président Teodoro Obiang Nguema de l'amnistie totale pour les opposants et prisonniers politiques. Claire Morin-Gibourg.
Le décret présidentiel a été bien accueilli par l'opposition, même si la prudence reste de mise. Le chef du principal parti d'opposition, Citoyen pour l'innovation, Gabriel Tse Obiang, espère que la libération interviendra demain ou samedi, tout en souhaitant que cette amnistie ne soit pas un piège. Il attend aussi que son parti, qui a été dissous en février, soit automatiquement restauré. 21 militants de son parti, condamnés en février à plus de 30 ans de prison pour sédition, devraient être concernés par cette amnistie. Un autre parti d'opposition, la Convergence pour la démocratie sociale, juge positif la libération des prisonniers politiques. L'objectif, selon le président Obiang Nguema, est de permettre une large participation de tous les acteurs politiques au dialogue national prévu du 16 au 21 juillet prochain.
La défense de 2 anciens bourgmestres rwandais a plaidé ce jeudi à Paris l'acquittement contre la perpétuité requise pour génocide, appelant les jurés à douter face à des témoins incohérents. Octavien Genzi et Tito Barayra, qui se sont succédés à la tête de Kabarondo, ont nié toute participation aux tueries dans cette localité où le pire des massacres avait fait 2000 morts à l'église, selon l'abbé. Le Parlement éthiopien a retiré 3 groupes armés de la liste des organisations considérées comme terroristes, un geste considéré comme un nouveau signe d'apaisement envers l'opposition. Abdourahmane Dia.
Les 3 groupes concernés sont Ginbot Savan, le Front de Libération Oromo et le Front National de Libération de l'Ogaden. La résolution a été adoptée à l'unanimité. Les défenseurs des droits de l'homme ont longtemps accusé le gouvernement éthiopien d'utiliser l'appartenance supposée à ces 3 groupes comme prétexte pour emprisonner des journalistes ou des opposants. Mais depuis son arrivée au pouvoir en avril, le premier ministre Ahmed Abiy a multiplié les gestes d'apaisement en libérant plusieurs opposants et en faisant de la réconciliation entre les diverses forces politiques l'une de ses priorités. Fin mai, il avait ordonné la libération d'Andargachew Shige, cofondateur de Ginbot 7. Un mois plus tard, le groupe, qui par le passé avait revendiqué plusieurs attaques meurtrières en Éthiopie, a annoncé qu'il cessait ses attaques armées. En début de semaine, une faction dissidente de l'OLF, le Front uni de libération Oromo, a accepté de s'engager dans une lutte pacifique selon le gouvernement.
Djibouti a inauguré ce jeudi la future plus grande zone franche sur le continent africain qui lui permettra de tirer pleinement profit de sa situation à l'entrée et de la mer Rouge. Lors d'une cérémonie, le président Ismaël Omar Goulet a vanté les mérites d'un projet phare dont la construction prévue pour durer 10 ans devrait s'étendre sur 4800 hectares.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les taxes douanières réciproques entre les États-Unis et la Chine sur des dizaines de milliards de dollars de marchandises entrent en vigueur dès demain. Des mesures qui inquiètent dans les milieux d'affaires américains. Le point avec Morgane Guériac.
Les tarifs douaniers américains de 25% sur 34 milliards d'importations chinoises frapperont 818 produits, dont des voitures, des composants d'avions ou des disques durs d'ordinateurs. Des droits de douane chinois sur un montant équivalent d'importations américaines seront réciproquement appliqués. Ils affecteront des produits agricoles, dont le soja, très dépendant du marché chinois, le secteur automobile ou encore des produits de la mer comme la langouste. Donald Trump entend ainsi lutter contre ce qu'il qualifie d'accords commerciaux inéquitables. Mais pour le président du patronat américain, ces mesures menacent de saper les progrès économiques. Par exemple, les droits de douane sur les importations d'acier affecteront les coûts de production d'entreprises américaines qui redoutent de ne plus être compétitives face aux produits étrangers. Et certains craignent déjà d'avoir à mettre la clé sous la porte, ce qui se traduirait par des pertes d'emplois pour les Américains. La Chambre de commerce américaine indique que les mesures de rétorsion des partenaires commerciaux des États-Unis ont particulièrement affecté l'Alabama, le Michigan, la Pennsylvanie, la Caroline du Sud, le Texas et le Wisconsin, qui ont tous voté pour Donald Trump en 2016.
Donald Trump a exhorté le Congrès américain à réformer d'urgence les lois sur l'immigration qu'il qualifie d'insensées, appelant à pouvoir renvoyer immédiatement tous les clandestins qui entrent aux États-Unis afin d'éviter le problème des séparations de familles de migrants. Plus de 2300 mineurs ont été retirés à leurs parents sans papier en quelques semaines. Après une vive polémique, M. Trump a signé un décret le 20 juin mettant fin à la séparation des familles. Par ailleurs, le ministre américain de la Santé, Alex Azar, a dit que ses services utilisaient des tests d'ADN pour réunir les enfants avec leurs parents interpellés pour être entrés illégalement aux États-Unis. Ces services doivent rendre une centaine d'enfants de moins de 5 ans à leurs parents d'ici mardi, conformément à une décision de justice, a-t-il précisé. Les autres mineurs doivent retrouver leurs parents d'ici le 26 juillet. Les personnes venant en aide à des migrants pour des raisons humanitaires ne doivent pas faire l'objet de sanctions pénales, a estimé le Parlement européen dans une résolution non législative. Selon une législation européenne de 2002, les pays de l'Union doivent introduire des sanctions pénales pour les personnes facilitant le séjour irrégulier de migrants. Moscou a sommé le gouvernement britannique de cesser ses intrigues et jeux avec les substances toxiques et a demandé une enquête commune après une demande d'explication de Londres. Un couple a été hospitalisé samedi à Amesbury, près de Salisbury, où l'ex-agent russe Sergei Skripal et sa fille ont été empoisonnés en mars. Et la justice russe a condamné Radio Free Europe, Radio Liberty, financée par le Congrès américain, à une amende de 1 600 dollars pour ne pas avoir fourni d'informations sur les fonds qu'elle reçoit comme l'exige son statut. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, un résumé de la Coupe du Monde 2018 en Russie avec Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à tous et bienvenue au journal du Mondial. Lueur d'espoir pour l'Uruguay à la veille de son quart de finale contre la France demain à 14h temps universel. Edinson Cavani, très incertain, s'est entraîné aujourd'hui pour la première fois depuis sa blessure contre le Portugal samedi dernier. El Matador a enchaîné les allers-retours en marchant puis trottinant, sans boiter mais sans non plus courir à haute intensité. Dans un coin du terrain, pendant que ses coéquipiers s'entraînaient sur l'autre moitié de la pelouse, le temps monte petit à petit et quelques supporters français présents à l'arrivée des Bleus à leur base à Nizhny Novgorod ont donné de la voix.
J'habite Lyon et donc on est venus les deux frères et on est venus supporter l'équipe de France et j'espère que demain ils vont gagner, on y croit. Ils ont fait un très bon match, très très bon match en quart de finale, meilleur match de ma vie que j'ai vu et j'y crois avec l'attaque qu'on a, je pense qu'on va y arriver et on va voir la demi et la finale et on va la gagner cette Coupe du Monde.
Même ambiance côté uruguayen, écoutons les réactions de quelques fans.
C'est l'été, c'est l'été. Soy celeste, soy celeste, celeste soy yo.
Tough team, small country, you know, we have great defense.
C'est un match entre deux équipes. Nous avons une grande défense. Malheureusement, je ne pense pas que Cavani va jouer demain. Je veux dire, je ne sais pas. Certainement, ça va être une grosse perte pour nous, mais je pense que nous pouvons tout de même relever le défi. L'équipe est mentalement très forte. Les joueurs savent qu'il va leur manquer, mais ils vont jouer à fond, ne serait-ce que pour lui faire plaisir, même s'il n'est pas sur le terrain.
Je pense que l'équipe qui va gagner demain, la France ou l'Uruguay, a une grande chance d'être en finale. Et quel que soit l'adversaire en demi-finale, la Belgique ou le Brésil, le vainqueur du match France-Uruguay va être le champion.
En attendant cette projection en finale, le vainqueur de ce match sera opposé en demi-finale à celui de la rencontre entre le Brésil et la Belgique, toujours demain à 18h temps universel. Brésil-Belgique, c'est le coup de sifflet de Jules-Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon.
Bonsoir. Les matchs Belgique-Brésil sont aussi rares que des pipis de chat et se soldent généralement par la victoire des Brésiliens. Mais pour le second quart de finale qui se dispute à Kazan, les données ont quelque peu évolué. La stratégie des Brésiliens a changé avec ses avantages et ses inconvénients. Si l'équipe défend nettement mieux et a choisi de jouer la prudence et la patience, par contre sa créativité légendaire et sa capacité de réaction, surtout quand l'adversaire vient à marquer le premier dans un match à élimination directe, a diminué. Ce qui peut parfois être fatal à la sélection et cela fut le cas en 2006, en 2010, respectivement contre la France de Zidane et les Pays-Bas d'Ariane Robben qui trouvèrent la faille assez tardivement. Or, la Belgique, que le quintuple champion du monde va affronter vendredi, se trouve dans la même configuration que les Pays-Bas de 2010 en Afrique du Sud. Tout d'abord, il y a cette constellation de sable tournée vers l'offensive, mais aussi ce statut enviable d'outsider qui n'a rien à perdre et ne subit aucune pression. En face, le Brésil a perdu le ratisseur Casemiro, suspendu, certes remplacé par le solide Fernandinho, mais celui-ci commet souvent des fautes à une distance que les artificiers belges De Bruyne, Mertens ou Hazard peuvent exploiter. Sans compter ce fameux scénario catastrophe à éviter à tout prix face aux Belges, que les Diables Rouges marquent les premiers, avec les conséquences tactiques que cela impliquerait. Le Brésil qui ne cache pas son objectif de ramener immédiatement le trophée pour montrer que l'effondrement devant l'Allemagne en 2014 n'était qu'un accident, trouve là l'occasion de confirmer ses ambitions. À vendredi.
Samedi, on aura les deux autres quarts de finale entre l'Angleterre et la Suède à 14h temps universel, à Samara et Russie-Croatie à Sotchi à 18h. C'est ici qu'on s'arrête pour ce journal du Mondial.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Les lycéens tchadiens s'apprêtent à affronter l'épreuve du baccalauréat, alors que la grève générale lancée en mai dernier par la plateforme syndicale revendicative reste toujours en vigueur. Les élèves n'ont ainsi pas pu finir les programmes. Mais pour pallier à ce manque, un jeune tchadien vient de lancer une nouvelle application mobile dénommée BackTchad. Notre correspondant à N'Djamena, André Kodmadjingar, l'a rencontré.
La nouvelle application mobile BackTchad vient renforcer les capacités des candidats des séries littéraires dans leurs recherches à travers les smartphones. Il suffit de télécharger le logiciel pour avoir accès à la méthodologie de traitement des anciens sujets au bac. Une initiative d'un jeune tchadien pour aider les élèves des établissements d'enseignement public qui n'ont pas pu finir les programmes pour faire des grèves de la plateforme syndicale revendicative. Le promoteur du projet, Dingamdoum Haristide, parle de l'importance de cette application pour les candidats.
Dès que vous téléchargez l'application, vous avez accès au contenu sans avoir recours à Internet. Et en plus, l'élève a la possibilité de tester son niveau. Quand il aura fini de lire un cours, il y a des quiz qui interagissent avec l'application, c'est-à-dire il va sur le quiz, il trouve les questions, il répond et l'application lui dit s'il a réussi, s'il n'a pas réussi.
Interrogé par VOA Afrique, quelques candidats trouvent cette application intéressante.
L'application BackTchad remplit plus ou moins nos besoins. Parce qu'on reçoit le programme et avec les greffes, ceux qui n'ont pas réussi à finir le programme, avec ça, ils peuvent mieux aborder quand même le bac.
La partie de français, ça m'a aidé à comprendre de mieux les œuvres développées. Mais la partie de philosophie, je n'ai pas trop compris parce que la formulation des sujets était un peu complexe.
Ils ont ajouté l'ONU et ils ont un peu approfondi le chapitre là. Puisqu'ils ont résumé le cours, c'est bon.
Une initiative appréciée par les parents d'élèves qui, selon eux, permettra à leur progéniture des établissements publics de se rattraper. D'autres, en revanche, expriment leur inquiétude sur l'orientation de ce sujet traité. C'est le cas du proviseur du collège évangélique de N'Djamena, Salé Samuel.
Avec tous les troubles que nous avons connus, beaucoup n'ont pas eu l'occasion, n'est-ce pas, de bien préparer les examens. Si quelque part on leur donne la possibilité de se débrouiller à préparer, je trouve que c'est une bonne chose. La seule chose que j'ai déploré, c'est que comment les enfants vont faire la sélection des informations pour qu'ils ne soient pas déroutés pendant l'examen.
Pour cette inquiétude, le promoteur de cette application, Dingamdoum Aristide, rassure les parents en ces termes.
Nous mettons la méthodologie de dissertation. Donc c'est pour permettre aux élèves de comprendre un peu comment faire la dissertation, le commentaire composé ou la contraction de texte. Juste question d'ouvrir un esprit à l'élève.
Le 16 juillet prochain est retenu par l'Office national des examens et concours du supérieur pour la composition du baccalauréat, alors que la plateforme syndicale revendicative n'a pas encore lever son mot d'ordre de grève. Mais certains enseignants font déjà défection et s'inscrivent sur la liste de ceux qui veulent être impliqués dans l'organisation de cet examen. Des comportements qualifiés par les autres de haute trahison qui risquent de fragiliser la lutte. André Kodmadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis veulent booster leurs relations commerciales et économiques avec la Côte d'Ivoire, l'une des économies les plus performantes du continent. Tel était l'enjeu principal de la récente visite à Abidjan du sous-secrétaire américain au commerce international, Gilbert Kaplan, lors de sa tournée africaine. Le point avec notre correspondant, Georges Ibrahim Tunkara.
La Côte d'Ivoire, seul pays francophone au menu de la tournée africaine du sous-secrétaire américain au commerce international. Une tournée qui a conduit Gilbert Kaplan en Éthiopie, au Kenya, en Côte d'Ivoire et au Ghana. Plus qu'une simple tournée, c'est une offensive commerciale et économique que les États-Unis viennent de lancer sur ces quatre pays à forte croissance économique. Catherine Brucker, chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire.
C'est une délégation forte des entreprises américaines qui sont en train de faire un peu voyage d'études afin de donner des conseils au président des États-Unis, mais aussi aux autorités ivoiriennes dans le domaine des affaires, ce que la Côte d'Ivoire peut faire pour améliorer les conditions pour les entreprises américaines, mais aussi les opportunités pour l'investissement direct ou peut-être des partenariats.
Pour le ministre ivoirien du Commerce, l'ambition de la Côte d'Ivoire est de porter à 3 milliards de dollars le volume des échanges commerciaux avec les États-Unis d'ici 2025. Souleymane Diarra Souba.
Nous sommes bénéficiaires du MCC, où nous avons eu environ 525 millions de dollars. Et la Côte d'Ivoire, au niveau de l'échange économique, a des niveaux d'échange économique d'environ 1,8 milliard de dollars avec les États-Unis. Et l'objectif est passé à 3 milliards de dollars. Et donc, nous profitons de cette plateforme-là pour inciter les opérateurs économiques américains à venir encore plus massivement en Côte d'Ivoire, parce que l'environnement des affaires est favorable, parce qu'il y a des opportunités dans le secteur agro-industriel, il y a des opportunités au niveau des mines, il y a des opportunités au niveau des BTP.
Preuve de la bonne coopération entre les deux pays, l'Agence américaine pour le commerce et le développement apporte son appui à un projet ivoirien de centrale électrique à biomasse qui utilisera les cabosses de cacao. Yapi Ogou, directeur général de la Société des énergies nouvelles de Côte d'Ivoire, Soden.
On a fait le pari que cette matière-là, on va la développer au maximum pour en tirer le maximum de profit. On va avoir près d'1 million de dollars de financement mis à notre disposition pour pouvoir donc parachever ces études dans de bonnes conditions. Ça fait 550 millions de francs CFA. C'est important. Ça ne fait pas tout le projet, mais ça nous permet de finir toutes nos études pour que nous puissions faire une offre technique à l'État de Côte d'Ivoire au mois de février-avril.
Au terme d'une rencontre qu'il a eue avec le président ivoirien, le sous-secrétaire américain au commerce international, Gerbert Kaplan, a annoncé le démarrage effectif du Millennium Challenge Corporation, MCC, dès la fin du premier trimestre 2019. Georges Ibrahim Tounkara, VOA Afrique, Abidjan.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Djibouti a inauguré aujourd'hui ce qui doit devenir la plus grande zone franche sur le continent africain. Le président Ismaël Omar Guelleh a vanté les mérites d'un projet phare. Situé sur l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde, entre l'océan Indien et le canal de Suez, Djibouti a inauguré l'année dernière 3 nouveaux ports et une ligne ferroviaire reliant l'Éthiopie. Idriss Fall a joint le premier ministre djiboutien Abdulkader Kamil Mohamed.
Ce qui a été inauguré aujourd'hui, c'est Djibouti International Free and Trade Zone. C'est une zone franche pour l'Afrique. C'est la première fois qu'en Afrique, une free zone pareille a été réalisée et tous les chefs d'État présents l'ont répété et l'ont redit. D'abord pour Djibouti, elle va augmenter de 11% le PIB du pays. Deuxième point, c'est que pour l'Afrique tout entière, ça sera donc une zone franche pour tous les produits qui peuvent passer par Djibouti. J'ai dit bien pour toute l'Afrique, mais la plupart des États africains qui sont à l'ouest de l'Afrique, ils auront sûrement leur zone franche, mais la partie est africaine, tout va passer par cette zone-là. Ensuite, pour l'intégration économique de l'Afrique.
Et ça va rapporter en gros combien ? Parce qu'on dit que c'est la plus grande zone franche du continent.
Oui, mais ça, là, c'est la première étape. Ça sera sur 3 étapes jusqu'en 2020-2025. Par rapport au PIB, ça va augmenter de 11%.
Et il a été construit avec quel fonds et avec l'apport de quel pays ?
Sur un prêt consenti par la Chine. C'est Djibouti qui finance tout ça sur des prêts chinois.
Et aussi, ce sont les Chinois qui ont construit le chemin de fer qui part de Djibouti à l'Éthiopie. Bon. Une voie de désengorgement aussi.
Absolument. Il y a ceux qui ont construit donc le chemin de fer et ceux qui maintenant ont construit la zone franche. C'est China Merchant.
Donc Djibouti est en train de vouloir profiter vraiment de sa position stratégique.
C'est ça qui est le plus important. C'est vrai que nous n'avons pas, nous, des ressources naturelles. Par contre, Dieu nous a placés géographiquement dans une zone où Djibouti occupe une zone stratégique où il a à peu près plus de 30% du commerce international par voie maritime passe par cette zone-là, l'océan Indien. Donc, ce qui fait que nous sommes bien situés à ce niveau et nous comptons profiter de cet emplacement pour avoir le maximum de rentabilité pour notre pays et pour notre peuple.
Et donc, ce n'est pas par hasard que la Chine vient construire un grand port aussi à Djibouti.
C'est pas un hasard. La Chine, quand même, a aussi des intérêts. Les intérêts sont chinois, sont djiboutiens aussi, hein, parce que c'est vrai que la Chine a aussi d'autres zones où ils doivent travailler, comme le Pakistan. Vous savez que ce qu'on appelle One Road, One Belt, dans l'océan Indien, passe par le Pakistan. Et après, ça vient chez nous. Nous comptons donc profiter de notre position pour qu'effectivement, on puisse développer notre pays.
Abdoulkader Kamil Mohamed est le Premier ministre de Djibouti.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Joselle Morissin, la console Xiao Gangchang. À la présentation, Nathalie Barge. Restons en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à tous.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis donnent une autre preuve de leur détermination à aider les pays africains dans la lutte contre le terrorisme. Ils offrent des millions de dollars pour toute information sur plusieurs hauts leaders de l'organisation terroriste liée à Al-Qaïda et basée en Somalie, Harakat al-Shabaab, al-Mujahideen ou al-Shabaab. Le groupe, classé organisation terroriste depuis 2008, combat le gouvernement somalien pour le contrôle du pays et a aussi mené une série d'attaques terroristes au Kenya. Il est responsable de la mort des milliers de civils somaliens, d'activistes, des journalistes, des travailleurs humanitaires internationaux, des civils et des soldats de la force africaine qui aident à rétablir la stabilité et la prospérité dans la région. Des dizaines de milliers de personnes ont été forcées de fuir leur domicile du fait des combats. Sous la désignation d'organisation terroriste, les États-Unis ont imposé des restrictions financières et autres aux groupes, bloquant ses avoirs et interdisant aux citoyens américains d'avoir des relations d'affaires avec ces militants. À présent, les États-Unis offrent des primes pour toute information pouvant aider à localiser 5 leaders du groupe. Ainsi, une prime allant jusqu'à 5 millions de dollars est offerte pour tout renseignement sur Mohamed Khalaf, de double nationalité somalienne et suédoise, également connu sous le nom de Fouad Sangalé, et Béchir Mohamed Mahamoud, chef militaire d'Al-Shabaab, qui serait né entre 1979 et 1982. Une prime allant jusqu'à 3 millions de dollars est offerte pour toute information pouvant mener à Abdoulane Yare, responsable des médias d'Al-Shabaab. Les États-Unis garantissent que tout renseignement crédible fera l'objet d'enquêtes et l'identité des informateurs sera gardée secrète. Si nécessaire, les États-Unis sont disposés à les réinstaller ailleurs pour leur sécurité. Si vous avez des informations sur l'un de ces hommes, contactez le bureau régional de sécurité à l'ambassade américaine la plus proche et le site d'information www.rewardsforjustice.net ou envoyez un email à l'adresse suivante info@rewardsforjustice.net. En Amérique du Nord, vous pouvez appeler au 1-800-877-3927.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.